Tout de suite, c'est le journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Comment mieux entourer nos aînés? La concertation Grand Âge et Autonomie débouche sur 175 propositions. Nous évoquerons plus particulièrement le plan national pour les métiers du grand âge visant à attirer un personnel qualifié. L'UFC Que Choisir s'attaque à la pollution agricole de l'eau. L'association demande une protection des captages de tout le territoire et la mise en œuvre stricte du principe pollueur-payeur. L'Organisation météorologique mondiale liste les effets concrets du réchauffement climatique. Elle souligne la fréquence croissante des événements climatiques extrêmes et leur impact dévastateur. Le patronat britannique accuse le Parlement d'avoir abandonné les entreprises au chaos du Brexit. L'incertitude n'est toujours pas levée et la situation est de plus en plus ingérable pour les entrepreneurs. Nous joindrons Louise Baudet à Londres. Pour faire face au vieillissement de la population française, il va falloir faire un effort financier conséquent, mais aussi revoir un modèle à bout de souffle. Ce sont les conclusions du rapport de Dominique Libault, président du Haut Conseil de financement de la Sécurité sociale, à l'issue de 4 mois de concertation sur le grand âge et la perte d'autonomie. Il formule 175 propositions pour prévenir et accompagner le vieillissement et la dépendance, et il met notamment en évidence les besoins croissants en personnel pour assister les personnes âgées à leur domicile comme en établissement.
Oui, le rapport, qui est le fruit de 10 ateliers menés pendant plusieurs mois, fait le constat de cette urgence et il propose en EHPAD notamment d'augmenter d'un quart le taux d'encadrement, ce qui équivaudrait quand même à embaucher 80 000 personnes dans les 5 ans qui viennent. Or, il est vrai que ces métiers n'attirent plus autant qu'avant. Audrey Dufeu-Schubert, députée de Loire-Atlantique, elle fait partie de La République En Marche, a participé à la concertation Grand Âge.
Il y a une baisse des vocations, il y a surtout une réalité, c'est-à-dire que ce sont des métiers extrêmement riches humainement, mais extrêmement difficile et complexe, avec une volonté de bien faire au quotidien. Et justement, on doit retravailler sur les conditions de travail. Le rapport y a fait référence à plusieurs reprises. Je pense que c'est extrêmement important. On a des taux d'accidents de travail qui est, je crois, 2 fois supérieur à celui du bâtiment. Donc le bâtiment a réussi à relever un petit peu ce challenge et d'améliorer les conditions d'exercice. On doit faire pareil sur cette filière soignante, avec toute la complexité émotionnelle autour de l'activité au quotidien.
Une activité source d'accidents du travail, donc, mais aussi très mal rémunérée, notamment à domicile. Romain Gisol me dirige l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui regroupe des directeurs d'EHPAD et de services de maintien à domicile. Et pour lui, la puissance publique a une réelle responsabilité dans ses salaires faibles.
Fin 2017, l'État a refusé de valider un accord qui avait été trouvé entre les organisations employeurs et les organisations de salariés visant à revaloriser les salaires de l'aide à domicile, donc qui sont en moyenne inférieurs au SMIC, de 0,44%. C'est-à-dire qu'on a dit à des gens, l'État a dit à des gens qui gagnent moins que le SMIC, ce que vous faites ne vaut pas d'être revalorisé de l'ordre de 0,44%.
C'était donc un très mauvais signal, mais apparemment le gouvernement change de braquet. Agnès Buzyn a promis de nommer très rapidement, avant même le vote de la loi, une personnalité qualifiée pour élaborer un plan afin de revaloriser et de mieux former les personnels.
Alors tout ça coûte cher, Tara, il est question de 9,2 milliards de dépenses publiques supplémentaires par an d'ici 2030.
C'est la vraie question encore en suspens. Le rapport propose notamment que la CRDS, impôt qui finance la dette sociale et qui va expirer en 2024, soit justement redirigé vers la dépendance. Mais pour l'instant, vous allez l'entendre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne tranche pas.
Je me suis engagée à ce qu'il y ait un projet de loi présenté en Conseil des ministres à l'automne. Donc les travaux débutent. Mais l'engagement que nous avons pris devant l'auditoire, c'est une couverture publique financé par la solidarité nationale pour couvrir le risque de la dépendance.
Sous la forme d'un nouvel impôt ?
Alors, aujourd'hui, des pistes ont été proposées dans le rapport. Nous allons travailler sur le financement. J'ai aussi entendu ce que disent les Français dans le grand débat national. Ils ne souhaitent pas d'impôts supplémentaires et donc nous devons faire avec l'ensemble de ces contraintes. Il n'y aura pas d'impôts supplémentaires pour financer la dépendance.
Le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus aura triplé d'ici 2050. Elles seront alors 4,8 millions. Les sabotages de radars en marge du mouvement des Gilets jaunes ont-ils entraîné un relâchement des comportements sur les routes? C'est ce que pense le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Il qualifie de dramatique les mois de janvier et février. C'est plus d'une personne tuée en plus chaque jour. D'après la sécurité routière, les 6 premiers mois d'expérimentation de la limitation de vitesse à 80 km/h avaient permis de sauver 116 vies, mais le Sénat ne partage pas cette analyse et il prône l'abandon de cette mesure.
Malgré les traitements, plus de 2 millions de consommateurs reçoivent une eau polluée en pesticides ou en nitrates. Voilà ce que conclut une étude de l'UFC Que Choisir réalisée à l'occasion des Assises de l'eau. Pour vous rassurer, 95,6% des consommateurs reçoivent une eau du robinet de très bonne qualité, conforme à l'ensemble des paramètres sanitaires. Mais des pesticides sont toujours détectés dans 5% des réseaux de distribution. Et les premiers pollueurs sont les agriculteurs. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Ce qui est aussi frappant, c'est que depuis le Grenelle de l'environnement qui avait ciblé un millier de captages d'eau prioritaires, c'est-à-dire fortement pollués, il n'y a eu aucun état des lieux, aucune étude exhaustive sur la qualité de l'eau à destination de nos robinets.
Non, et c'est pour combler ce manque que l'UFC a conduit cette étude qui rappelle que si l'eau est majoritairement potable, vous l'avez dit, dans nos robinets, c'est parce qu'elle est dépolluée, notamment des nitrates et des pesticides d'origine agricole, et que le coût de cette dépollution est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard d'euros par an, coût supporté principalement par le consommateur. Robert Mondeau, administrateur national de l'UFC en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de l'eau.
On constate que si l'eau du robinet est potable dans la très grande majorité des cas, c'est au prix d'une potabilisation de l'eau qui est très importante et au prix d'une taxation du consommateur individuel, de l'usager domestique, qui est très très majoritaire. Et aujourd'hui, alors ça vaut ce que ça vaut parce que c'est une moyenne, mais on est autour de 85% des redevances qui sont payées par le consommateur, l'usager domestique, si vous voulez, pour les redevances des agences de l'eau.
L'UFC propose donc de mettre en place le strict principe du pollueur-payeur. Pas si simple évidemment, dans un contexte où la plupart des agriculteurs souffrent déjà de charges importantes et ont du mal à se rémunérer. L'association fait remarquer par ailleurs que dans le cas où les communes ont repris en main la protection des captages d'eau en incitant les agriculteurs à de meilleures pratiques, eh bien les taux de pollution sont en nette baisse quand ce sont les chambres d'agriculture qui pilotent. C'est beaucoup moins flagrant, Robert Mondeau.
Les collectivités locales sont les gestionnaires des réseaux, elles sont responsables devant leurs citoyens de la qualité de l'eau qu'elles produisent. Les élus sont donc très directement intéressés à ce que ça marche, à ce que ça réussisse. C'est sûr que les gens d'agriculture qui sont malgré tout les représentants de la profession agricole ont plus de mal à brutaliser, pour employer un mot un peu fort, les agriculteurs pour prendre des mesures un peu drastiques.
Le point positif, c'est que sur la plupart des 102 captages expertisés par l'UFC, les taux de pesticides et de nitrates sont en baisse, mais la France en compte 35 000 de ces captages sans état des lieux récents.
Anne-Laure Chouin. Nicolas Dupont-Aignan a présenté ce matin sa liste en vue des élections européennes, mais rien ne va plus pour le président de Debout la France. Il recule dans les enquêtes d'opinion. Crédité il y a encore quelques semaines de 7 à 8% d'intention de vote, il plafonne désormais à 5%. Un sondage Elabe le donnait même hier soir à 3%. Et pour ne rien arranger, ses alliés le lâchent, en particulier le président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson. Au bout du compte, Stéphane Robert, tout ça pourrait bien faire les affaires de Marine Le Pen et du Rassemblement national.
Nicolas Dupont-Aignan est entré dans une spirale décliniste inquiétante à 2 mois des européennes. Il y a quelques semaines encore, crédité de 7 à 8% d'intention de vote, il occupait un véritable espace politique. Il pouvait se targuer d'avoir des alliés, contrairement au Rassemblement national, et incarnait une vraie alternative à Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Son espace s'est réduit à 4,5-5%. Un sondage hier soir le donnait même à 3%. Sans doute en partie à cause de la dynamique qui s'enclenche à droite du côté de Les Républicains avec François-Xavier Bellamy. Et puis, on a pu constater ce matin avec la présentation de sa liste que n'y figurait ni son principal allié, le président du Parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson, ni le député européen qui l'avait rejoint après avoir quitté le Rassemblement national, Bernard Monod. Il m'avait promis la 5e place, explique Jean-Frédéric Poisson. Et il n'a pas tenu sa promesse. Jean-Frédéric Poisson s'est exclu de lui-même, rétorque Nicolas Dupont-Aignan. En réalité, ce sont ses équipes de campagne qui semblent n'avoir jamais accepté Jean-Frédéric Poisson et son étiquette de catholique conservateur. Quant à Bernard Monod, nous avons décidé d'un commun accord qu'il ne serait pas candidat, a tenté d'expliquer Nicolas Dupont-Aignan. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus sur cette liste que des proches du président de Debout la France, personne d'autre, et que les perspectives électorales vont nécessairement s'orienter à la baisse. Nicolas Dupont-Aignan promettait d'être le poil à gratter de Marine Le Pen pour ce scrutin européen. Aujourd'hui, elle peut se réjouir, il a perdu beaucoup de son pouvoir urticant.
Stéphane Robert. Cela fait 3 ans qu'ils sont dans l'incertitude. Les milieux d'affaires britanniques n'en peuvent plus et face au blocage politique au Royaume-Uni, ils disent leur exaspération. À la veille d'un nouveau vote très incertain sur l'accord de divorce négocié par Theresa May, le patronat accuse le Parlement britannique d'abandonner les entreprises au chaos inextricable du Brexit. On retrouve notre envoyé spécial à Londres, Louise Baudet.
Le ton est très inhabituel venant d'un responsable du patronat. Adam Marshall, directeur général des chambres de commerce britanniques, est sorti ce matin de sa réserve en ouverture de la conférence annuelle de son organisation, puis devant les caméras.
Les entreprises sont énormément frustrées et en colère parce qu'on tourne en rond depuis maintenant 3 ans. Et le monde des affaires ne sait pas ce que seront les conditions commerciales après le 12 avril. Le Parlement peut discuter autant d'options qu'il veut, mais il doit commencer à faire un choix. Et vu les votes de la nuit dernière, rien n'indique que nos représentants politiques y soient prêts.
Réquisitoire à la hauteur de l'inquiétude qui prévaut, selon Adam Marshall, les entreprises britanniques ne veulent pas d'une sortie désordonnée et nombre d'entre elles ne sont pas prêtes pour un Brexit sans accord. Bérésina économique ou choc plus limité, la perspective d'un no deal provoque ici une avalanche de chiffres. Fin 2018, la Banque d'Angleterre a surpris en pronostiquant une chute de 8% du PIB britannique, soit une addition de 180 milliards d'euros. Scénario aussitôt contesté par les partisans du Brexit et mis en doute par les économistes qui appellent à la prudence. En attendant, la perspective du divorce a déjà des conséquences sur l'économie. L'investissement est en net recul depuis plusieurs mois et l'industrie automobile est particulièrement affectée. Près de 8 voitures sur 10 produites outre-Manche sont destinées à l'export, dont la moitié vers l'Union européenne.
Louise Baudet à Londres pour France Culture. Plus d'argent pour Erasmus, le programme européen dont ont déjà bénéficié 9 millions de jeunes en 30 ans. C'est ce que réclame le Parlement européen. Il veut que le budget du programme d'échange universitaire soit triplé pour la période 2021-2027 pour permettre à plus de jeunes de partir. Les précisions de Johanna Hochstein à Strasbourg.
La Commission européenne propose de doubler le budget alloué au programme Erasmus. Pas suffisant, disent les eurodéputés, qui ont voté aujourd'hui en faveur d'un triplement de l'enveloppe pour la prochaine période pluriannuelle. À l'heure actuelle, à peine 4% des jeunes européens partent à l'étranger avec Erasmus. Jean Arthuis, président de la Commission des budgets.
Aujourd'hui, on ne satisfait qu'une demande sur deux. Donc doubler, c'est tout juste satisfaire les demandes éligibles exprimées aujourd'hui.
Autre volonté des parlementaires, démocratiser le programme et le rendre plus inclusif, Jean Arthuis.
Il y a un côté quand même un peu élitiste, c'est surtout l'enseignement supérieur. Il faut que tous les jeunes puissent bénéficier de ce programme, c'est-à-dire permettre aux apprentis, aux stagiaires de la formation professionnelle, de bénéficier de mobilité longue. Aujourd'hui, les apprentis partent, mais ils partent une semaine, 2 semaines. Ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une immersion pour qu'un apprenti puisse lui aussi parler une autre langue que la langue maternelle et enrichir ses capacités professionnelles.
Les parlementaires espèrent ainsi renforcer l'identité européenne des jeunes pour lutter contre l'euroscepticisme. Mais pour parvenir à leur fin, les eurodéputés devront encore batailler avec les États membres qui voient rarement d'un bon œil les augmentations de budget.
Tension diplomatique entre les États-Unis et la Russie au sujet du Venezuela. Hier, Donald Trump a sommé les militaires russes présents au Venezuela de quitter le pays. Aujourd'hui, Olivier Poujade, Moscou demande aux États-Unis de ne pas se mêler de ses relations avec Caracas.
Moscou avait jusqu'ici maintenu une certaine distance dans le dossier vénézuélien, un veto au Conseil de sécurité sur l'entrée de l'aide humanitaire, mais les exigences de Donald Trump poussent aujourd'hui le Kremlin à hausser le ton. Nous ne nous ingérons pas dans les affaires intérieures vénézuéliennes et nous attendons des autres pays qu'ils suivent notre exemple. Fin de citation, retour à l'envoyeur. La diplomatie bulldozer de Donald Trump dans ce dossier trouve désormais sur sa route la méthode du double jeu de Vladimir Poutine. La présence russe ne date pas d'hier au Venezuela. En octobre, 2 Tupolev 160, des bombardiers stratégiques longue distance, se sont posés sur la piste de l'aéroport de Caracas et y ont stationné quelques semaines. La Russie invoquant déjà à l'époque des accords de coopération pour justifier l'envoi des deux appareils. Sur l'envoi de troupes, officiellement, 99 militaires russes se trouvent désormais à Caracas. Mais depuis quelques mois, la présence de quelques centaines de spécialistes du groupe Wagner est évoquée. Cette société paramilitaire privée, très active lors de l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine, présente en Syrie et en Centrafrique, serait aujourd'hui en mission pour protéger Nicolas Maduro et les intérêts russes, mines d'or, pétrole, créances, des milliards d'euros sont en jeu, être présent sans être menaçant, mais occuper le territoire pour que ces investissements ne soient pas en danger.
Les Vénézuéliens sont à nouveau privés d'électricité. Ils se fabriquent des lampes à huile. Ils vont chercher leur eau à la source, couvrent leur viande de sel pour la conserver. Et faute de pouvoir utiliser leur carte bancaire, ils font, quand c'est possible, leurs achats à crédit. Connaissez-vous l'agueusie ? C'est une maladie dont on parle peu. Elle touche pourtant près d'une personne sur cinq. Sur la planète, plus d'un milliard d'individus ont perdu le goût ou ont vu ce sens passablement dégradé. Il y a l'agueusie, l'absence de goût, et la dysgeusie, un trouble du goût. Un grand pâtissier espagnol, lui-même atteint d'une maladie méconnue, a découvert l'agueusie et a voulu lutter contre ce trouble. Avec le soutien d'une fondation, Jordi Roca, chef des desserts du restaurant El Celler de Can Roca, a monté une équipe de spécialistes et une expérience visant à réactiver chez les patients le goût du chocolat. Le reportage de Mathieu de Taillac.
Jordi Roca, depuis une dizaine d'années, ne contrôle plus les muscles de son cou. Un problème qui a dérivé en une impossibilité de parler à voix haute, l'effet d'une maladie rare avec laquelle il a appris à vivre et qu'il a fait développer son empathie face aux problèmes des autres. Un jour, un ami cuisinier, Oriol Blanes, lui raconte qu'il a perdu le goût et l'odorat. Jordi Roca.
Je me suis dit, merde, ce que j'ai c'est dur, mais je peux faire mon travail de cuisinier avec mes mains, mon goût, mon odorat. Quand Oriol, qui est cuisinier, me dit qu'il a perdu sa capacité de sentir et de goûter, ça m'a beaucoup plus impressionné. Je me suis dit, quelle saloperie! Alors on a rassemblé une équipe de professionnels, de spécialités diverses, et on a parlé de la possibilité de créer une expérience destinée à essayer de compenser le sens du goût par les autres sens, et même de le réveiller en le stimulant de manière latérale. Et ça a marché!
Certains patients, qui se croyaient des cas désespérés, se sont mis à reprendre espoir. Paloma était très sceptique lors des premières expériences.
Ils nous ont fait goûter différents chocolats, c'était une authentique torture, je pensais que ça ne se terminerait jamais, c'était horrible. Ils nous demandaient de dire lequel on aimait le plus, et pour moi ils étaient tous pareils, tous mauvais, alors quand on est arrivé à l'expérience finale, moi je n'y croyais pas du tout, j'y suis allée pour ne pas être mal élevée.
Por cortesía, por educación.
Pour chacun des sept patients, Jordi Roca avait préparé un dessert personnalisé, conçu en prenant en compte ce que chacun associe au chocolat, des souvenirs de la plage, d'une forêt, une couleur, une consistance. Voici la réaction de Paloma, enregistrée par les caméras et les micros de l'équipe de Roca. C'est du chocolat, ça a le goût du chocolat. Ils étaient plusieurs à pleurer en retrouvant un goût dont ils n'avaient plus fait l'expérience depuis des années. Comment ça marche ? Explication du neurologue de l'équipe, le docteur Jesús Porta.
Le cerveau réellement...
Le cerveau ne te fait pas voir un objet complet ni déguster un plat. Ce sont des éléments distincts que le cerveau identifie de manière indépendante et ensuite il crée une image et lui attribue une catégorie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on a divisé les éléments qui font le chocolat. La forme, la texture dans la main, la texture dans la bouche, la température, la couleur, alors qu'il manque le plus important, le goût ou l'odorat. Et tous ces éléments dégradés, nous les avons transmis à Jordi pour qu'il crée le cacao spécial pour ce patient, de sorte que quand le cerveau perçoit tous ces aspects qui correspondent au cacao, il active la neurone du cacao.
Le docteur Porta veut écrire un article, envisage des résonances magnétiques pour que le travail du pâtissier permette à d'autres de retrouver ne serait-ce que quelques secondes le goût du chocolat.
Mathieu de Taillac, correspondant de France Culture en Espagne. L'Organisation Météorologique Mondiale publie le bilan santé de la planète pour 2018 et dans ce nouveau rapport, elle met en évidence les conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Les records de chaleur ont encore été battus les uns après les autres l'an dernier et 2019 ne devrait pas faire exception à la règle, Jérémy Lanche.
Les rapports des Nations Unies sur le climat ressemblent de plus en plus à des compilations de records tous plus inquiétants les uns que les autres. Montée rapide du niveau des océans, fonte constante de la banquise, tous les indicateurs sont dans le rouge. D'après l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, les températures de ces quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. L'une des conséquences les plus visibles, c'est ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Omar Badour est coordinateur scientifique à l'OMM.
On sait très bien maintenant que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et sont de plus en plus longues. Cette année, par exemple, on a enregistré plus de 1600 décès associés aux vagues de chaleur. Il y a d'autres extrêmes climatiques. Le problème, c'est que leur impact est de plus en plus dévastateur. Par exemple, l'ouragan Florence, ce n'est pas l'intensité elle-même qui était importante du cyclone, mais sa durée.
L'ouragan Florence et Michael aux États-Unis, le typhon Mangkhut aux Philippines, les inondations historiques dans le sud de l'Inde, tous ces événements exceptionnels pourraient bien se reproduire en 2019. D'autant plus qu'avec le phénomène El Niño cette année dans le Pacifique, la température globale devrait encore augmenter, avec des conséquences probables sur la migration. Plus de 800 000 personnes ont dû quitter leur foyer l'an passé à cause des catastrophes climatiques. En septembre, l'ONU a prévu d'inviter invité pour un sommet à New York les pays les plus méritants dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déjà prévenu les participants. Ne venez pas avec un discours, venez plutôt avec un plan.
Pour demain, Météo France prévoit du beau temps sur la plupart des régions, des passages nuageux tout de même sur le nord et le nord-ouest et localement près des côtes basques et landaises. Les températures minimales varieront entre moins 1 et 11 degrés. Les maximales seront 12, 14 à 18 sur la moitié nord, 17 à 22 au sud. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.